qu'avec Anem. Madame, mademoiselle, monsieur, merci d'avoir choisi d'écouter ce 23e numéro de Cave Canem, lequel sera structuré de la manière habituelle, qui a fait ses preuves, un peu de diva aux lèvres glossées. Ce sera Olga Peretiatko et son récital chez Sony sobrement intitulé La Bellezza del Canto, ce qui veut plus ou moins vouloir dire la beauté du chant. Jean-Philippe, tu me corrigeras. Des Allemands qui chantent fort et faux, ce sera le vaisseau fantôme de Janowski paru chez Pentatone. Et alors j'ai demandé à deux de nos plus fidèles amis, Sylvain Faure et Jean-Philippe Thiellet, de nous présenter à travers un récital un ou une artiste méconnue du grand public, et comme pour me prouver que je suis le seul maître à bord et que mes désirs ici sont des ordres, ils ont choisi de nous parler de Marilyn Horn et de Dietrich Fischer-Dieskau, deux illustres inconnus donc, et pour couronner le tout, Sylvain Faure, qui devait être présent, n'est pas présent, donc nous allons skipper Dietrich Fischer-Dieskau, que vous aurez l'occasion de découvrir une autre fois donc. Alors le sommaire de ce qu'il y avait quand même, voilà, je viens d'en parler, vous le connaissez, je laisserai dans un instant la parole à Jean-Philippe Thiellet qui nous parlera de Marilyn Horn, cette jeune mezzo-soprano prometteuse, mais nous apprenions le mois dernier la disparition soudaine du ténor italien Salvatore Licitra, et je tenais avant de faire un petit tour de table à passer cet extrait du récital qui marqua ses débuts chez Sony, on écoute Nessun Dorme. Voilà, c'était Nessun Dorme par Salvatore Licitra, le récital de ses débuts, paru chez Sony. Jean-Philippe, tu as régulièrement eu l'occasion d'entendre ce ténor à la scène, et tu voulais nous en dire un petit mot.
Oui, parce que bon, un ténor de 43 ans qui meurt dans un accident, c'est en soi triste. Si le ténor est bon, c'est encore mieux, c'est sûr. Mais bon, c'est quand même pas une bonne nouvelle. Après, oui, j'ai vu assez régulièrement Licitra en Italie et puis au Met, où il était un habitué depuis qu'il avait remplacé Pavarotti au pied levé dans Tosca, si je ne me trompe pas. Et je trouvais que c'était un artiste assez touchant, un artiste sincère, avec un engagement sur scène. Bon, on l'a vu aussi à Paris dans le Bal Masqué. Il avait un timbre assez intéressant, je trouve. Après, on peut dire ce qu'on veut de la technique. Souvent, on la voit par derrière, et puis la phrase qui a entamé les gâteaux s'arrête. Bon, voilà. On peut en dire des tas de choses sur un plan technique, mais je trouve que dans le répertoire qui était le sien, il y allait avec vaillance et sincérité, et sa mort m'a attristé. Voilà.
Voilà, nous allons revenir à Ali Chitra dans un instant, mais je vais rapidement faire un petit tour de table de nos invités aujourd'hui. Donc, nous avons le fantôme de Sylvain qui était censé être avec nous, qui nous a faussé compagnie.
Bonjour.
Donc, vous n'aurez pas l'habituelle chronique de droite de Sylvain qui pourtant fait les délices de nos auditeurs. Par contre, je vous propose Laurence Dell. Laurence Dell, le célèbre ténor britannique qui donnait des frissons à la Queen Mother, encore jeune fille, en lui chantant des mélodies enamoureuses d'Alfonso Ferrabosco, n'est-ce pas? En t'accompagnant toi-même à la Viola d'Aspal.
Tout à fait.
Et on a évidemment
Jean-Philippe
Thillet de ForumOpéra.com et de Terra Nova,
Bonsoir.
Dont tu es le vice-président, et Piotr Kaminski de Diapason, mais qui
Plus tellement, hein, c'est oui.
d'innombrables
Ci-devant de Diapason, mettons.
Ci-devant de Diapason, traducteur célèbre de Beckett, de Genet, de Shakespeare en polonais, et dont la bibliographie ferait passer la discographie de Fischer Disco pour l'œuvre d'un narcoleptique terminal. Alors, Laurence, un petit mot sur Salvatore Licitra, sans cynisme cette fois, parce que j'ai l'habitude de te solliciter pour parler des ténors qui disparaissent trop tôt. Je crois que tu aimais bien Salvatore Licitra.
Oui, évidemment, c'est un très bon ténor. Et que c'est un ténor qui agrandissait, si on peut le dire, je veux dire, qui prenait encore en ampleur. Et franchement, on a perdu Vincenzo de Scuola dernièrement. Sur les ténors britanniques, tu en parles toujours, mais on a perdu presque toute la génération avec qui j'ai agrandi. C'est triste, c'est très triste. Déjà, on était bouleversé par la mort de Pavarotti, mais il arrive à un certain âge. Et là, avec un grand ténor tout en gloire, c'est tellement triste. Encore plus pour une raison apparemment banale, qui a eu un accident de scooter de Vespa. Et se coincer contre un mur.
Il avait eu manifestement un accident, une hémorragie cérébrale avant qui le fait perdre
Voilà,
contrôle de la Vespa, d'après les
j'ai lu
médecins de
ça.
l'hôpital
Oui, j'ai lu ça
Garibaldi.
aujourd'hui. Oui,
Il y avait un autre
Et il n'avait
accident de
pas de
ce
casque.
genre qui nous a fait perdre, non pas un ténor, mais un baryton, le Polonais Drabowicz. Wojtek
Oui,
Drabowicz,
tout
qui
à
est
fait.
mort de là, exactement, il y a
Malaise
2 ou 3 ans
cardiaque
maintenant,
au volant de sa voiture.
exactement de la même façon.
Mais
Il est rentré dans un arbre et on a constaté ensuite que ce n'était pas un accident. L'accident est arrivé avant
Et
et a
donc,
provoqué l'accident de voiture.
Même
oui,
s'il
mais
avait
ça,
porté un
c'est.
casque, ça n'aurait rien changé.
Voilà, mais le propos, quelque part, c'est est-ce que les artistes sont mis sous une telle pression que ça fait un
Bon, je
enjeu?
crois que
Je
c'est les artistes qu'on remarque. J'imagine qu'il doit y avoir des accidents anonymes de ce genre tous
Oui.
les jours, mais quand c'est un artiste d'une quarantaine d'années qui est au sommet de ses moyens, qui meurt soudain comme ça, là, on a vraiment envie de hurler, de taper du pied. C'est ridicule.
Voilà, alors
Je suis d'accord.
de toute façon, bientôt vous lirez un article d'hommage à Salvatore Licitra que nous concocte Jean-Philippe Thiellet. Et nous allons reprendre le cours habituel de cette émission, sans Salvatore Licitra, mais aussi sans Sylvain, comme vous l'aurez remarqué, avec le disque de Marilyn Horn, sobrement intitulé Classic Recital. Jean-Philippe, je vais donc te laisser la parole.
Oui, alors tu nous avais invité la dernière fois, et moi en premier, à présenter un disque méconnu d'un chanteur méconnu, voire un disque un peu oublié. Et donc je suis allé pêcher dans le formidable ressource qu'est Cobuz. J'ai trouvé ce disque que je me rappelais, évidemment, pour l'avoir physiquement à la maison. Et on n'avait pas beaucoup parlé de Marilyn Horn, donc c'est pas une jeune chanteuse, c'est pas une nouvelle actrice, mais j'avais envie de lui tirer un coup de chapeau. Alors, je ne sais pas quel extrait tu as choisi de faire écouter.
Évidemment, en grand pervers, j'ai pris la version italienne du Salut à la France. Je ne sais pas si tu valides ce choix.
Ah bah, tes choix sont souverains, hein. C'est comme l'appréciation souveraine des juges du fond, c'est souverain et on ne contrôle pas. Je voulais simplement dire que c'est assez intéressant d'écouter ce disque qui a quelques décennies et d'avoir choisi ce morceau-là après avoir, lors du dernier Cave Canem, critiqué les choix d'une soprano mezzo dont on ne savait pas très bien quel était le répertoire et qui mélangeait du Cenerentola avec du Elena de Donatella.
Peut rappeler, c'est Julia Lesneva.
Julia Lesneva. Bon. Donc non, pour Marilyn Horn, et effectivement, c'est peut-être pas l'extrait que tu as choisi qui permettait d'incarner encore mieux ça. Mais bon, j'avais envie de lui tirer un coup de chapeau. Elle aura 83 ans l'an prochain. On espère qu'elle va bien. C'est une chanteuse dont l'impact et l'aura aura été presque aussi considérable que celui de Callas dans le répertoire qui était le sien, parce qu'elle a accompagné toute la deuxième partie du XXe siècle, puisqu'elle a commencé dans les années 60 à être la partenaire de Sutherland en Arzach, et c'était sans doute la meilleure, sans contestation. Et puis ensuite, elle est allée jusqu'aux années 80-90. C'est grâce à elle que quelqu'un comme Samuel Ramey a explosé, non seulement au Met, puisqu'elle a réussi à l'imposer, mais aussi à Aix-en-Provence, à ses côtés, en Assour. Aujourd'hui, elle a créé une fondation qui rénove l'art du récital en permettant à des jeunes chanteurs de se produire un peu partout aux États-Unis. Bref, c'est une sacrée nana, Marilyn Horn, et en Arzach, en Tancred, même dans la mélodie et dans le répertoire français. Voilà, j'ai qu'un seul regret, c'est de ne l'avoir jamais entendue sur scène. Mais je voulais souligner ça. Merci Jackie pour tout ce que tu as fait, puisque Jackie est son petit nom, surtout pour les Américains d'ailleurs, mais c'est une sacrée bonne femme.
Oui. Lawrence, tout à fait. Avant de revenir sur le programme du disque et en parler plus largement, on va écouter donc ce Salut à la France en italien, et donc visiblement transposé. Jean-Philippe nous révélera tous les secrets.
C'est en italien ?
Oui, c'est en italien.
Oui, absolument.
Ah bon? Oui, c'est le prophète qui est en français.
Et les Huguenots. On écoute Salut à la France en italien. D'ailleurs, Jean-Philippe, en italien, comment dit-on Salut à la France?
Ciao, Francia.
Bravo. Bravo, Jean-Philippe.
Fermente.
Alcun,
Voilà, c'était Salut à la France, Marilyn Horn, Classic Recital chez Decca, le choix de Jean-Philippe Thiellet pour nous présenter un artiste inconnu.
C'est le recital Covent Garden, c'est celui où il y a Arzace, Isabella, Cenerentola, il y a le Sesto, tout ça.
Ouais.
Oui, c'est un disque qui a presque un demi-siècle maintenant.
Oui,
c'est sorti en 64.
Alors, Piotr Kaminski, justement, sur ce disque, que dire ?
Écoutez, c'est très marrant parce que c'était le premier recital de Horn que j'ai entendu en 33 tours. Vu mon grand âge, et je me rappelle avoir été complètement ébloui par ce que j'ai entendu, et en même temps très surpris par certaines choses que ce disque comportait. Évidemment, il y a des choix. Bon, c'est une voix entre deux. On la traite de mezzo, mais c'est une voix tout aussi ambiguë que celle de Lejeuneva et qui était celle de Isabelle Colbrand, la grande diva et aussi Madame Rossini. C'est quelque part entre les deux, et elle se déplace sur ce territoire avec une aisance royale. Et il faut dire ça, c'est que c'est un de ses premiers disques. C'est l'époque où ses premiers disques explosent. Je crois que sa première excursion dans ce répertoire, c'est un album génial, qui est extrêmement précieux, qui s'appelle L'âge du bel canto, c'est Age of Bel Canto qu'elle a fait avec Sutherland et Bunning, et un ténor canadien extrêmement bizarre, très curieux et à mon avis absolument passionnant, et qui est toujours parmi nous, sauf qu'il ne chante plus, j'imagine, qui a cessé de chanter, il s'appelle Richard Conard, et qui chante là-dedans dans un style, dans une technique, d'une façon qu'on a complètement oublié. On a vraiment l'impression de réentendre Rubini ou des gens comme ça. Et chante Alma Viva, il chante Mozart, il chante la muette de Portici, d'une façon, une émission dont je recommande ça. Et il y a dans cet album quelque chose que les deux filles feront très très vite ensemble en couplet, c'est-à-dire il y a l'autre extrait de Semiramide qui est le duo, le premier duo des deux, Serba Mjonior, et qui est probablement un des feux d'artifice vocaux les plus extraordinaires de l'histoire du disque. Et cette grande grande scène d'entrée d'Arzach qu'il y a sur ce disque-là égale parfaitement en qualité, en gloire et vocale, en virtuosité éblouissante. Et surtout, il y a la couleur, ce qui est assez extraordinaire, parce que ce qu'il aurait fallu peut-être mentionner quand on parle de Mademoiselle Horn, c'est qu'elle a commencé en soprano et elle a commencé en soprano invisible. Ça, tout le monde s'en souvient. C'est elle qui double Dorothy Dandridge dans Carmen Jones, dans le film. Et quand on écoute bien, on entend le grain de la voix, mais la couleur n'y est pas encore. Et c'est ensuite que viendra ça, que viendra la Semiramide, et qui viendra surtout peut-être son plus beau disque pour moi, et qui est Adalgisa, dans la première Norma de Sutherland, où elle montre un soutien, un legato, une intelligence du chant qui est absolument éblouissante. Je veux dire que je suis moins enthousiaste par ce qu'elle fait dans le récital, dans la mélodie. J'ai entendu un récital par elle. Ce n'est pas, comment dire, le charisme n'est pas de cet ordre-là, à mon avis. Quand elle chante Fides dans Prophète, c'était son grand rôle à cette époque-là. Là, effectivement, elle casse la baraque. C'est extraordinaire. Il y a surtout, c'est pas Monsieur Dale qui me contredira, un soutien qui est un son vraiment appuyé, vraiment soutenu et d'une souplesse pour une voix aussi énorme dans la cabalette du prophète, c'est carrément invraisemblable. Et il y a des messes à divoce dans d'autres, je crois, dans des ditanti palpiti qui n'est pas sur ce disque-là de Tancrède. Elle savait faire des choses comme la confiture aux cerises de Tchekhov, dont on a un peu oublié la recette. Était vraiment la seule à savoir faire ça.
Alors Lance, justement, le principal reproche qu'on entend à propos de Marilyn Horn était que c'était une voix fabriquée. De fait, elle est venue de rôles comme Marie dans Vote sec et elle a chanté Lucrezia.
C'était un de ses premiers rôles.
Oui, mais... Et puis elle a fini comme principal contralto de sa génération. Qu'est-ce que tu peux justement dire techniquement de cette voix?
On peut dire de... beaucoup de grands chanteurs.
Est-ce que c'est une voix fabriquée?
Oui, mais ce que je voulais dire, c'est on peut dire de beaucoup de gens que c'est une voix fabriquée, si on veut être...
Si elle est bien fabriquée.
Oui, non, mais c'est ça. C'est l'art du chant, c'est pas que le naturel. C'est un travail énorme de technique, trouver une technique. Je m'appelle bien, il y a 25 ans, quelque chose comme ça, on parlait de Domingo comme baryton. On parlait de Bergonzi comme baryton, mais ils ont fabriqué, si on veut, ils ont travaillé sur une technique pour être
assuré. Bergonzi s'est fabriqué tout seul, d'ailleurs.
Moi, j'ai vu beaucoup de travail avec ces chanteurs. J'ai fréquenté pas mal, et j'ai vu comme ils ont construit. Je veux dire, carrément construit. Par exemple, je m'appelle avec beaucoup d'admiration Catherine Malfitano, qui commençait avec les Suzanne, avec les moi, on a chanté ensemble Rossini en 84. L'année après.
Mais 6 ans plus tard, elle chantait Salomé.
Voilà, c'est ça. Voilà. Ce que je voulais dire, l'année après, elle était en train d'étudier et fait un régime énorme pour chanter Loulou, avec Ponel, qui l'a soutenue énormément. Et puis, moi, je m'appelle Madame Butterfly, je n'attendais pas ça, mais c'est une perfection de chant qu'elle a bossé comme une folle pour avoir une voix comme... Freni dans Butterfly à Covent Garden. J'étais bouleversé par ça. Je n'attendais pas. Mais c'était fabriqué, si on veut. C'était construit.
Construit, c'est négatif.
Mais, c'est truqué.
Mais avec Horn, elle a évidemment, tout le monde est au courant. Elle commençait comme soprano à Gelsenkirchen. Elle a commencé avec Tosca, avec les rôles comme ça. Marie de Wozzeck, et puis apparemment elle a eu des soucis, des problèmes, elle se sentait pas à l'aise, et puis elle se sentait beaucoup plus à l'aise dans le tessiture de mezzo-soprano. Donc elle a, avec cette musique, on est obligé de faire une espèce de tubing, une espèce de tuyau pour descendre dans les passages, pour avoir une égalité de chant. Et c'est tout à fait légitime et extraordinaire. Et ce qu'on entend dans ce disque, c'est... moi, j'étais bouleversé en entendant ça encore une fois, comme vous. Je l'ai entendu quand j'étais très, très jeune. Et puis, je me rappelle bien de premier Adagio, par exemple, où il y a des moments où elle tubait. Et moi, j'ai dit, attendez, ça, c'est un mec. Je veux dire, c'était vraiment tubé. Et puis.
C'est pour ça qu'elle est toujours mieux en Isabelle qu'en Tenerento.
Voilà.
Il y a un côté. Elle a beaucoup chanté des rôles de Castra, d'ailleurs. Mm-hmm. On peut discuter ceci ou cela, style. Mais elle avait absolument la voix du rôle, si je
veux dire. Mais
ton crède, ces trucs-là.
Ce que je voulais dire, c'est quand même, ça, c'est enregistré en 64. Donc, elle avait. C'est quoi, des années. Elle est née.
Il y a un demi-siècle. Donc elle
avait non, mais je veux dire son âge à l'époque.
Elle avait une trentaine d'années, elle est de 20.
Même presque.
Elle est de 1929, si je ne me trompe pas.
Oui, 29.
Parce donc elle avait 35 ans.
Ouais. Donc, ce que je voulais dire, c'est à cette époque-là, c'est une espèce de carte de visite de premier récital. On a pas mal entendu.
Pas 21 ans comme Julia Lesnieva, quoi.
Voilà
35.
Voilà ce que je voulais dire. Avec cette carte de visite, on entend l'artiste complète, on entend une technique considérée, imaginée, conçue, construite.
Et personnelle.
Et voilà.
C'est tout ce qu'on demande aux chanteurs, c'est notes, d'être unique.
J'ai dit, elle est la fairy godmother, je ne sais pas comment on dit ça en français.
La bonne fée.
La bonne fée de toute la génération, toutes les générations, parce que ce n'est pas qu'une seule. Elle a créé l'image, l'option d'un autre diva que soprano. Et chaque fois qu'elle chante quelque chose, c'est elle. Elle a une bourrée de personnalité, elle a ce que j'appelle utterance. Ça veut dire que chaque note qu'elle chante, c'est parce qu'elle a besoin de dire ainsi. Et je trouve que ça, c'est le contenu d'un vrai star.
Alors, sa place dans la Rossini Renaissance, Jean-Philippe, parce qu'on est en 64, un peu avant la Rossini Renaissance, et puis elle arrive à Pesaro 10-15 ans plus tard, et là, vraiment, elle donne vie avec une autre génération de chanteurs à Rossini, tel qu'on le connaît aujourd'hui, tel qu'on l'apprécie.
Oui, elle a assuré le lien entre les générations, en réalité, puisqu'elle a été la partenaire de Sutherland.
Elle avait ce ménage à trois avec Pavarotti et Sutherland.
Oui, dans le fameux récital à... où est-ce qu'il était ce récital, où elle s'était transformée, elle avait chanté le rôle,
Silva.
Elle avait chanté Silva dans le trio d'Hernani, un truc incroyable, un récital à trois fabuleux qui est sorti chez Decca, qui a été réédité il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, enfin édité en CD il n'y a pas très longtemps. Mais elle a assuré ce lien entre les générations, puisqu'elle a chanté, dans Hermione à Pesaro, et elle a pu chanter avec ceux qui ont fait vraiment la Rossini Renaissance au début de leur carrière, ou du moins dans l'apogée de leur carrière, qui ont été les Blake, Merritt, etc. Donc elle a assuré ce lien. Mais je voudrais juste ajouter techniquement, ce qui, que sa voix soit bien timbrée, qu'elle utilise la virtuosité pour exprimer quelque chose et pas pour faire bête de foire, parce que ça ne fait jamais bête de foire, je trouve. On pourrait dire
juste assez pour
que ça soit marrant, pour qu'on soit baba. Bon. Mais en plus, il y a quand même donc l'homogénéité, vous l'avez dit, et une voix de poitrine qui est incroyable. Enfin, j'ai jamais entendu quelqu'un chanter dans les graves en poitrine. Trinant, au sens péjoratif du terme.
Eva Podless, peut-être.
Oui, c'est ça. Il y a quelque chose du même type. Donc voilà. Mais alors sur le récital, il y a quand même un disque que j'ai pas trouvé chez Cobuz, qui est Les Péchés de vieillesse, qui doit être chez RCA, qui est un délice absolu parce que c'est tout au second degré. C'est quand même du français dans les trois quarts du récital, et elle est, mais dans un style un peu différent, elle est à mourir de rire. Enfin,
parce qu'elle chante la chanson du bébé.
Absolument.
Et on lui donne le fouet.
Absolument.
Mais j'ai eu la chance de fréquenter un petit peu en privé.
Est-ce que tu as chanté avec elle?
Non, j'ai jamais chanté, mais j'étais souvent en alentour d'elle, avec Ernesto Palacio, avec June Anderson, des gens comme ça.
Tes amis proches?
Ernesto aussi, oui, tout à fait. Mais par exemple, je m'appelle bien Rinaldo à Venise, où elle a imposé ce répertoire dans les théâtres qui ne s'intéressaient pas trop. Et puis tout d'un coup, on avait une espèce de vague de réévaluation de cette musique. Mais je m'appelle bien, je pense aussi Rinaldo, c'était dans la production de Pizzi, qui se promenait partout. Magnifique avec des chevaux qui se promenaient avec c'était
avec
grandiose.
Gazdia.
Oui, Gazdia,
83,
voilà.
Non, non un petit peu plus tôt.
Oui, mais moi j'ai vu
et son fameux casque avec le ballet brosse.
Voilà,
il a quitté plus.
Non, mais ce que je voulais dire, c'est pendant les répétitions, elle a marqué tout le temps. elle était très très attentive. Et puis le soir, elle téléphonait toutes ses copines, ses copains. Elle m'a dit, mais tu vois, je sauve la voix, je protège ma voix toute la journée pour téléphoner toute la soirée. Je veux dire, c'est emblématique de son humour absolument extraordinaire. Ce qu'on témoigne, la personnalité, ce qu'on témoigne dans des enregistrements. Et c'est ça aussi la vedette, le star.
Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est quand cette Semiramis est sortie, c'était 64-65 à cette époque-là, un des plus grands critiques d'opéra de cette époque, l'américain Conrad Osborne, a écrit dans High Fidelity que c'était vraiment de la musique pour débiles, que c'était ridicule, que ça n'avait aucun sens, et à cette époque-là, imposait Semiramis intégralement, avec un ténor et une basse qui ne valent probablement évidemment pas ramer.
L'histoire ne retiendra pas Spiro Malas.
Non, mais ça, non, ils sont quand même, merci beaucoup, ils s'en sortent finalement assez bien, mais ce sont les deux filles qui...
Le ténor est particulièrement redoutable.
Oui, d'accord.
C'était
j'ai pudiquement...
Moi, je l'ai entendu au Théâtre Champs-Élysées en live.
Ah oui, ça, c'était la production avec Caballé,
Raïssa et Rami.
En 80, c'est Saldex.
Et c'était...
Qui était reprise au Théâtre des Champs-Élysées.
C'était aux Champs-Élysées après Aix-en-Provence.
Mais à cette époque-là, imposer une Semiramis intégrale, c'était pas une mince affaire. Et c'est grâce à Dame Joan et à Miss Horn que la chose a existé, s'est imposée et rentrée et revenue au répertoire. Ce qui prouve une chose, c'est il faut trouver des gens pour chanter des choses. Si les gens ne sont pas là, les répertoires meurent.
Et par la force
des
choses,
des générations des chanteurs qui peuvent, on découvre que les triomphes d'autrefois n'étaient pas fruits du hasard. Que c'est pas par hasard que c'est arrivé, que les gens couraient écouter les opéras de Meyerbeer. Quand on retrouvera, quand on ressuscitera les Reschke d'autrefois, on vient d'en avoir un exemple à Bruxelles avec la production de Minkowski et de Pi, il suffit d'avoir des chanteurs pour faire ça, et pour avoir des chanteurs pour faire ça, il faut l'envie de faire ça et leur donner la possibilité de le faire pour qu'ils fassent leur preuve, que les grands répertoires d'autrefois renaissent et tout vit à nouveau.
Voilà le leitmotiv de cette émission d'ailleurs. Mais merci, donc on renverra les curieux à l'Orlando Furioso de Marilyn Horn et aussi surtout son italienne à Alger impeyable avec Samuel Ramé. Je crois que c'était...
Avec Ramé et avec Chimone.
Avec les clochettes dans l'ouverture. Ouais. Ding, 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 ouais.
Exactement. voilà, donc on va passer. au disque suivant. Il s'agit du Fliegende Holländer, dirigé par Marek Janowski chez Pentatone et le label hollandais. Alors, Marek Janowski et son orchestre de la radio de Berlin ont l'ambitieux projet d'enregistrer les 10 opéras majeurs de Wagner en compagnie, disent-ils, des plus grands solistes actuels. Le présent enregistrement constitue le premier jalon de ce marathon et on y retrouve la sympathique figure du baryton Albert Domène, la vigoureuse soprano Ricarda Merbet, l'imputrescible basse Mathie Salminen ou encore le ténor Robert Dean Smith. Le cycle sera complet en 2013 pour fêter dignement, disent-ils toujours, l'année Wagner.
Ich Dann werde ich nicht vergehen. Wann alle Toten auferstehen, dann werde ich nicht vergehen.
Voilà, c'était Albert Domaine dans son redoutable air d'entrée. Laurent, que voulait dire cette grimace désagréable ?
Non, ce n'était pas désagréable. Enfin, oui.
C'était censément désagréable.
Non, mais non, parce qu'on a vu à la télévision de Genève le magnifique Isolde, Tristan Isolde avec Domaine qui chantait Covenal. Ça passait extrêmement bien.
C'est autre chose aussi vocalement. C'est autre chose aussi vocalement.
Voilà, comme tu dis. Et moi, j'ai eu mes expériences avec Maestro Janowski. Et non, mais chaque fois que je l'entends, je l'admire. C'est parce que c'est par exemple, moi, quand j'étais gamin, soi-disant, quand j'étais jeune, j'ai acheté en disque noir son Ring avec quoi, Eurodisc de l'Allemagne de l'Est, avec Jesse Norman qui chantait Sieglinde, avec, je veux dire, les grandes voix, encore une fois, avec quelque chose à dire. Et quand j'ai commencé, quand j'ai vu qu'on va parler de cet enregistrement, j'ai dit, ah mais tiens, ok, d'accord. Il fallait avaler tout ce que j'avais en tête parce que Janowski dirige ça formidablement bien.
Ça, il faut le reconnaître.
Oui, formidablement bien, avec une dramaticité, comme on dit ça en français, dramaticité très soutenue, avec les effets, avec l'orchestre.
C'est un enregistrement, si tu permets, où on sent que le live est une valeur ajoutée.
C'est live.
Oui.
Moi, j'imaginais que c'était live,
oui,
mais je ne savais pas. Je n'ai pas entendu une participation.
J'ai entendu une vieille dame tousser.
Non, je pensais que c'était peut-être Ricarda. Ah, mais, non, mais ce n'est pas une vieille dame non plus, parce que l'année dernière, je pense, il y a 2 saisons, quelque chose comme ça, elle a chanté Je ne m'appelle plus quoi à Paris, mais tous mes amis m'ont dit, mais il faut que tu
précises. Chanté dans die Totestadt.
Totestadt, voilà. Et tout le monde a dit, mais il faut te précipiter parce que moi, déjà, j'adore Totestadt. Et on a dit qu'elle était formidable. Je trouve, dans cet enregistrement, elle est peut-être mal servie parce qu'elle est enregistrée de très près. Et on expose des aspects de sa voix qui sont moins jolis, moins agréables. Et la vraie critique que je veux faire de ce disque, c'est... Pour moi, il y a un manque d'équilibre dans la sélection des voix. Il n'y a pas un concept des voix vis-à-vis des personnages, vis-à-vis de l'œuvre, vis-à-vis d'interprétation. C'est un peu à droite à gauche. Dommage que Sylvain ne soit pas là pour soutenir cette réplique. Bien.
Elle était très bonne.
Elle était bonne, hein, celle-là. Mais je ne comprends pas. Pourquoi on a enregistré ça ?
Piotr Kaminski, justement, quelle singulière idée de s'attaquer à une quasi-intégrale de Wagner dans ce secteur en crise qu'est le disque. Est-ce que vous trouvez une explication à ce problème ?
Écoutez, il y a une chose qui justifie l'existence de ce disque, en dehors de toutes les critiques qu'on puisse porter à l'égard des chanteurs. Et je suis nettement moins sévère que Lawrence à ce sujet. C'est la direction de Janowski.
Je suis d'accord. C'est formidable.
Corrigez-moi si je dis une bêtise, mais je crois que c'est un garçon qui n'a jamais dirigé à Bayreuth. Je ne me souviens pas d'une seule de ses participations. Ça ne veut pas dire que ça n'a jamais existé. Moi, je n'arrive pas à me souvenir d'une seule visite de ce type à Bayreuth, en dépit de ce Ring de Eurodisc fait à l'époque, et en dépit de cet Hollandais, qui pour moi semble être la meilleure direction de cet opéra depuis, et je vais peut-être faire hurler certains, depuis Fritzschei. Il y a une concentration l'action, dans la narration, là, une force. Moi, j'ai un thermomètre qui s'appelle l'ennuyomètre. Si au bout de 20 minutes, je ne suis pas en train de bâiller, mais j'attends ce qui va se passer ensuite et le sort des personnages m'intéresse et le sort de l'œuvre entre les bras, entre les mains, entre les doigts, sous la baguette de ce monsieur m'intéresse et je ne lâche pas prise pendant 2 heures, 2 heures et demie, c'est qu'il y a quelque chose qui marche bien.
Mais là, on est pris dès les premières mesures.
Qu'on n'a pas, qu'on ne s'est pas trompé. Je trouve la prise de son magnifique, je trouve l'orchestre
même des chanteurs
extraordinaire. Même les chanteurs sont un peu trop près, mais là je crois qu'on a le véritable problème, c'est la dimension des voix de ce type-là n'est plus de notre époque. Mais par la même occasion, je me suis replongé pour faire reconstruire une perspective aussi quand on écoute ça dans les enregistrements anciens. Et je peux vous dire que le Hollandais a très souvent été très bien dirigé, mais on ne peut pas dire qu'il ait été admirablement chanté. Et que si vous remettez dans votre petite machine un classique contre classique et que personne ne pourrait contester l'enregistrement de guerre de Clemens Krauss, et je suis désolé, mais j'écoute 10 fois par jour Madame Ricarda Merbet plutôt que Viorica Ursuleag dans le vieux truc. Fritschai à Annelies Kupa qui est tragique. Klemperer qui est totalement insupportable. C'est André Tuboeuf qui appelait le fer blanc. Vous sortez le Böhm avec une Gwyneth Jones en lambeau. C'est pas. Faut dire, bon, c'est le personnage est tellement insupportable. C'est une tête à claque telle que finalement on lui demande pas d'être sympa. Mais pour entendre la balade chantée véritablement avec la voix qu'il faut et le style qu'il faut, faut remonter à Elisabeth Rydberg, excusez du peu. Ça, c'était les années 30. Donen, je veux bien qu'on lui cherche les poux dans la tête, mais il a la véritable voix du rôle.
C'est sûr.
Et c'est un vrai baryton basse. C'est une vraie voix de Votan Boris. J'étais très surpris parce que je me souvenais pas d'un chanteur d'une telle qualité. Salminen, à l'âge qu'il a, Dieu du ciel, mais quel personnage, quelle dimension. Et Dean Smith, désolé, mais il chante vraiment très très bien. Et on a en plus un des plus beaux Steuermann dans la discographie. À ma plus grande surprise, là je m'attendais vraiment pas à une telle qualité, c'est Steve Davis-Lim qui chante ça extrêmement bien. Les chœurs sont magnifiques, les deux ensembles d'ailleurs, et l'orchestre et le chœur sont absolument magnifiques. Moi j'ai traversé ça avec un énorme plaisir.
Toute voile dehors,
et c'est le cas de le dire, et j'ai réécouté, je vous dis par exemple, non, ne parlons pas de Knappertsbusch, des gens comme ça qui tout simplement ne comprenaient rien à cette œuvre, mais Klemperer,
ça mériterait une petite explication.
Écoutez, parce que si moi j'étais difficile, où on fait 30 minutes de plus que tout le monde, celle-là, il y a un véritable problème. Hein. C'est que vraiment, il ne comprend rien. Disons, comment on dit autre chose, il comprend autrement.
Oui, hein, c'est voilà. Ça. Voilà, c'est ça. C'est plus politiquement correct.
Voilà, mais Janowski, et c'est là où je retrouve mon vieux Fritschai adoré, joue cette œuvre dans son époque. Il ne joue pas Parsifal, il joue quelque chose qui se place entre Weber, Marschner et Lortzing, un opéra de son époque. Et moi, j'ai adoré ça d'un bout à l'autre, avec toutes les réserves qu'on veut, mais je trouve que s'il maintient même ce niveau-là vocal, dans la suite des événements, et la suite des événements, je suis désolé, mais le prochain, c'est un Neuser, bonjour, bonjour. Hein. Ça va pas être... heureusement, il n'aura pas de metteur en scène, comme j'aime en voir à Bayreuth, donc au moins, il aura ça en moins. Mais s'il maintient ce niveau-là, ce sera pas la plus mauvaise des séries des opéras de Wagner. Bon, moi, je serre les doigts et j'espère que on a un ténor qui vient de mourir, j'espère qu'il y en aura d'autres qui naîtront dans les 10 ans à venir.
Voilà au moins qui répond à ma question. Jean-Philippe.
Je suis assez largement d'accord, en tout cas sur le plaisir qu'on peut prendre à écouter ce disque. C'est captivant de bout en bout et je reviendrai sur les chanteurs. Non, pour pinailler, je dirais que l'orchestre, alors c'est peut-être dû à l'enregistrement, mais je trouve que c'est extrêmement analytique. On entend, ah oui. On entend tout. C'est presque sec. C'est presque sec. Et il y a des fois où j'aurais aimé qu'ils se lâchent, quoi. Assez souvent, en comparant telle plage ou telle plage, j'aurais aimé. Enfin, j'aime bien la fougue d'un Levine, même dans ce répertoire-là. Mmh, alors, absolument. C'est l'époque assez récente, etc. Et donc, si on pinaille, je dirais ça. Cela dit, pour le reste, la distribution est extrêmement homogène. Domaine complètement d'accord avec ce que vous dites, Piotr. C'est exactement la voix du rôle tel qu'on l'imagine. Alors, peut-être que, je sais pas, Lawrence, tu l'aurais aimé mieux projeté, plus clair peut-être au fond, c'est peut-être ça que tu attendais, mais c'est quand même extrêmement convaincant et puis c'est poignant, il y a une vraie humanité dans ce qu'il chante.
Que le micro l'avantage pas énormément et qu'à la scène il est nettement plus excitant.
Oui, c'est sûr.
C'est pas une voix qui plastiquement gagne.
En tout cas, je vois pas très bien qui d'autre sur le circuit aujourd'hui peut chanter le hollandais comme ça.
Parce que c'est marrant parce que la voix est plus ce type, elle est plus de chair et de chair sombre, c'est vraiment de la viande rouge vocale. Qu'un Brinterfell, sans rien reprocher à Brinterfell au demeurant. Hein. Mmh. On vient d'entendre son Wotan, merci, surtout à notre époque, c'est brillant d'avoir quelqu'un comme ça. Mais ça, c'est plus grave, c'est plus sombre. Alors, et il y a surtout un truc dont je n'ai pas parlé, mais qui est quand même essentiel, c'est une des dernières écoles, c'est un des derniers domaines où on comprend chaque mot. Ils ont une diction extraordinaire. Mmh.
Et alors, archi d'accord sur Matisse Albinen, c'est quand même monstrueux. Après quoi, 40 ans de carrière.
Mais il a 70,
une espèce de fraîcheur.
Presque.
C'est une maison, quoi.
Imputrescible.
Voilà. Alors, bon, j'ai été un peu déçu parce que j'en attendais beaucoup de Dean Smith et de Merbet. Dean Smith, parce qu'il est il chante bien, c'est sûr. La voix est quand même assez belle. Il est un peu léger, il est un peu falot, quoi. On aurait envie de lui dire, mais secoue-toi, vas-y. Là aussi.
Pourtant, c'est un sacré tromblon.
Ah bon ? Ouais. D'accord. Bon, très bien. Et alors, Ricard Amerbet, qui m'avait fait une merveilleuse impression dans Die Tote Stadt et aussi dans l'affaire Macropoulos, si je ne me trompe pas, à Paris. Là, je l'ai trouvé, je ne sais pas s'il a été fatigué, une méforme, mais je trouve que la voix était manquée de fraîcheur, de naturel. Ouais. J'avais été extrêmement impressionné par Adrien Piekjonka. Dans ce rôle-là, il y a 2 ans ou 18 mois. Mais ça n'enlève rien à l'immense qualité de ce disque.
Moi, j'ai l'impression que Merbet s'échauffe. C'est que la balade commence assez mal. Il y a des sons un peu éclatés et pas très justes. Mmh. Et soudain, elle trouve son équilibre. Et finalement, je l'ai suivi jusqu'au bout. Mmh. Et moi qui déteste Senta, j'ai envie de l'étrangler de la première scène.
La noyer.
C'est jamais trop tard. j'ai quand même suivi cette tête à claque jusqu'au bout. Ouais.
Donc pour faire suite aux pulsions meurtrières de Piotr, Lawrence, tu voudrais peut-être conclure.
Non, simplement parce que moi aussi j'avais tellement envie d'entendre Merbet parce que j'ai tant entendu parler d'elle et j'ai dit mais tiens, et j'étais déçu, peut-être ce n'était pas son meilleur moment, aux conditions de peut-être, je ne sais pas pourquoi, mais la voix me semblait sauvage. Ce qui est bien, mais j'aime bien aussi l'idée que, comme vous avez dit, ça suit Weber et l'espèce de bel canto à l'allemande que Wagner s'est cherché, et je ne crois pas qu'on entende ça. Dernière réplique, dernière chose.
Ça, c'est juste, absolument.
C'est que Dean Smith, c'est un ténor qui m'impressionnait tant. Quand j'ai acheté son premier récital il y a des années, j'avais toujours envie de l'inviter à Evian parce que c'était quelqu'un que j'estime énormément.
C'est un sacré tromblon. Donc
Tu parles de quel festival à Evian ? Celui
de Gergiev. Très bien. Mais moi, je trouve que ce qu'on a connu dans le premier enregistrement n'est pas aussi suivi. Moi, je trouvais la voix moins belle, moins colorée, moins riche. Et je trouve, je ne sais pas si c'est parce qu'il chante Tristan, je pense qu'il fait tous ses rôles maintenant. Mais pour moi, c'était le Lohengrin absolument idéal.
Walter aussi.
Walter von Stolzing, sublime. Et... j'étais un peu triste, mais il faut que je répète, j'étais très impressionné par Maestro Janowski.
Je vais vous dire que j'ai tout pardonné à Dean Smith après avoir réécouté Hans Kotzub dans la version de Klemperer. Ernst Kotzub, qui chante Eric chez Klemperer, qui sacré graal de la discographie dont je n'ai jamais vraiment complètement compris la réputation. Et je vais vous dire vraiment, ça c'est vraiment n'importe quoi. Hein. Il promettait vraiment ce garçon. Mm-hmm. Il est mort un peu jeune. Et son Tamino avec Schulte de 55 est magnifique. Là, 13 ans plus tard, il en reste vraiment des miettes. Et finalement, on découvre que Robert Dean Smith n'est pas si mal que ça. Hein.
Ah non, c'est pas mauvais, c'est simplement j'attendais le rêve.
Oui.
Le rêve d'Alfred Bruno. Bon, nous allons passer au disque qu'a choisi notre invité, non pas Piotr Bechala, car c'est le sujet du disque, mais Piotr Kaminski. Alors, Piotr Kaminski, vous avez choisi Slavic Opera Arias de Piotr Bechala, accompagné de l'orchestre de la radio polonaise.
Alors, sous la direction de Łukasz Borowicz, qui est un jeune chef.
Je ne m'y serais pas aventuré.
Ben voilà, c'est pour ça que j'ai pris le relais.
La quatrième de couverture nous dit « Grandes émotions pour grande voix ». Dans la plus pure tradition du répertoire slave, Piotr Bechala, artiste d'une phénoménale flexibilité vocale et stylistique, donne libre cours à son fougueux tempérament. Ça donne très envie.
Écoutez, c'est son deuxième disque chez Orfeo. Le premier s'appelait Salut. Il y avait du répertoire italien et français. Et il est en train d'enregistrer, c'est un scoop à peine, avec le même Łukasz Borowicz à Varsovie. Il est en train d'enregistrer un disque Verdi. Ça sera son troisième récital. Ce qui est extraordinaire. Lui, son grand idole, c'est Wunderlich, évidemment. Mais je crois que la place qu'il pourrait occuper et qu'il occupe déjà aujourd'hui, ce serait celle de Gedda, parce qu'il est, il est vraiment sur le plan linguistique universel. Mmh. Il chante en polonais, en tchèque, en russe, et en français, très bon français. Sur le premier disque, c'est vraiment très très bien. Faust, c'est son grand rôle. Et italien, bon, allemand. Donc, sans le moindre problème. Et je vous fais rigoler parce que le commentaire du disque a été écrit par quelqu'un que je connais bien.
Sa mère.
mais je vous assure, je suis pas payé à l'exemplaire. Donc, c'est terminé, c'est oublié, c'est terminé.
Vous
voilà.
Êtes mis à la ligne. Parce
j'ai d'ailleurs, je veux dire, j'ai perdu la bataille avec la dame qui dirige la maison parce que moi j'avais prié, mais supplié qu'on fasse des textes et apparemment pour des raisons que j'ignore, on a préféré un grand commentaire avec la description du contenu. Donc j'ai décrit le contenu et puis voilà.
Fougueux tempérament. Donc. Et alors quel extrait avez-vous choisi?
J'ai choisi un extrait que moi je trouve que je connais par cœur depuis l'âge de un chiffre, qui est un extrait du Manoir hanté de Moniuszko, qui est une scène magnifique, une scène de rêve la nuit, sous la lune, où soudain une vieille horloge se réveille, joue et accompagne au carillon les rêves d'amour d'un jeune ténor. C'est un grand... un des plus beaux airs d'opéra, de ténor dans l'opéra slave. Et j'imagine que si existait en version italienne, tous les grands ténors chanteraient ça, parce que ça, c'est vraiment un grand numéro un chant de ténor spectaculaire.
D'habitude, moi qui suis si téméraire pour prononcer toutes les langues étrangères sans frémir, je vais par contre cette fois décliner l'invitation et vous laisser dire l'intitulé de cet air.
C'est on va pas dire c'est le ténor est là seul dans la tour et il regarde la nuit. Ticha Dokoa, ça non. D'ailleurs, vous allez voir c'est Wiesław Hoffmann, le ténor polonais de la précédente génération, qui disait que les ténors polonais sont vraiment maudits parce que ça c'est le grand numéro de ténor polonais. Un ténor allemand, il chante quoi? Infernenland. Un ténor italien, il chante quoi? Di quella pira. Un ténor français, il chante quoi? La fleur que tu m'avais jetée. Un ténor polonais, il chante là-dedans quoi? Baczność Stefanie w chaque chien przyrzekł żyć w bezżennym stanie.
Eh bien, nous l'écoutons. Субтитры сделал DimaTorzok.
Yeah. scegna crogit da pies svobod mie nuci gdisola i smiencios praves pieci od dać krev vize jak matka nie pevna či
Voilà, c'était Piotr Bekchala dans cet air que je ne me hasarderai pas à prononcer.
L'air du manoir hanté de Moniuszko.
Exactement.
C'est le troisième acte. C'est accompagné avec l'orchestre de la radio polonaise de Varsovie, avec Łukasz Borowicz, un jeune chef absolument extraordinaire qui a pratiquement ressuscité un orchestre moribond et qui en a fait en quelques années le meilleur orchestre en Pologne.
Alors, Lawrence, on reconnaît dans cette voix les moirures de ton timbre unique.
Comment tu peux te dire une chose pareille?
Non, mais c'est sublime, ça. J'ai déjà entendu ce monsieur, pas en live, je ne pense pas. On aurait dû faire quelque chose ensemble.
Il chante Lenski beaucoup.
Oui, voilà.
L'année dernière, il était, enfin, la saison dernière, je ne me rappelle plus si c'était cette année. Il a fait Yannick dans La fiancée vendue, oui. Dans la reprise de l'immonde spectacle de Monsieur Deflo. Et l'année prochaine, je crois, ou cette saison qui vient, il va faire Rigoletto.
Non, mais on voit qu'il chante partout dans le Festival Salzbourg. Roméo et Juliette, mais c'est magnifique. C'est bizarre. En écoutant ça, j'ai des souvenirs quand j'étais assez jeune. C'est toujours quand j'étais assez jeune. De Virgilius Noreika.
Ah oui, le grand ténor lituanien.
Et cette espèce de lyricisme, de mélancolie, de nostalgie, et puis une virilité, une musculation vocale qui
est. Surtout, la voix est faite. La voix est vraiment faite. Il couvre tout le territoire. Ça, il a construite sans moindre problème. Et a une solidité à toute épreuve. Ça, il a explosé. Bon, il est depuis une certaine époque déjà. Il a 43 ans, je crois, 44, l'âge de Lichitre. Et quand il y a un an et demi, je crois, il a remplacé Don Lucia au pied levé, Villason, indisposé au Métropolitane. Et là, Netrebko, tout le monde n'y pouvait rien. C'était lui qui a eu, dans la scène finale, il a eu une ovation debout. Mais c'est quelqu'un de très libre. Il n'est pas soutenu par les grandes marques. Il n'a aucun label.
C'est un petit truc comme ça. Parce que ça,
c'est
le vrai chant.
Comme ça.
Je connais un ténor britannique des années 80 et qui s'est arrivé aussi.
Ouais.
Bien.
C'est faux, tu as fait un très beau disque chez Harmonia Mundi.
Ah oui, très bien.
Que nous passerons un jour où tu ne seras pas là.
Vous y chantez I Love Me ou pas?
Comment vous rappelez ça? Mais
parce que j'ai de la mémoire, moi, monsieur.
Apparemment. Mais vous n'avez pas d'autre chose à me. Bon, mémoire.
Bon, pauvre Laurence Dell, sortons-le de ce marasme. Jean-Philippe, Piotr Bekchala.
Alors enfin un disque, alors on l'a pas écouté en entier, Il a déjà fait une carte de visite, donc là on échappe à la Donna et Mob, et à Edgar.
Il y est maintenant.
et je vais m'empresser d'acheter ce disque qui n'était pas numérisé. Ça, c'est magnifique, cette scène que je ne connaissais pas est magnifique. Voilà, donc sur sa voix, moi je l'ai entendu dans Le Duc de Mantoue et dans Lenski. Je crois que c'est vraiment un des meilleurs du moment, parce que dans ce type de voix-là, c'est pas Marcelo Alvarez, c'est Piotr Bechala. Hein. Les particularités de son timbre font quand même songer à des grands anciens. On a parlé de Guetta. Moi, je trouve qu'il y a du Chicoff aussi dans l'émotion et
dans la couleur.
Dans la couleur. C'est un immense chanteur. Moi, j'ai très très envie d'entendre la suite de ce disque. Et puis surtout, la voix est dans un magnifique état. Il a donc une quarantaine d'années. Si ça va bien, il a une magnifique carrière devant lui.
Il peut tout faire. Bon,
il chantera pas Othello probablement, mais
on lui a déjà proposé Lohengrin. Ouais, bah, il a dit merci beaucoup dans 6-7 ans.
Bon, mais
Lohengrin est extrêmement raisonnable.
S'il est intelligent et
avec cette qualité de voix, cette technique, c'est tout à fait logique. Ouais. Mm-hmm. C'est tout à fait logique. Le problème, quand on propose Lohengrin, on attend que ça soit chanté comme Elton.
Et ça dépend encore dans quelle salle.
Ça dépend de plein de choses, mais s'il est intelligent, c'est déjà la moitié du chemin.
Ça dépend sur le chef d'orchestre.
Il a vraiment oublié d'être bête, ce garçon.
Piotr Bechala, qui était déjà, si je ne m'abuse, Tamino à Bastille dans les années 80. À Garnier dans les années 80.
Oui, à Garnier, oui, tout à fait.
Avec la Nathalie Dessay.
Je crois qu'il a commencé avec Tamino ici.
Tout à fait. Nathalie Dessay, effrayante, en reine de la nuit. Nous allons passer, et c'est un exercice délicat auquel va se livrer Jean-Philippe, à sa traditionnelle chronique de gauche qui d'habitude est contrebalancée par la chronique de droite, voire la chronique réactionnaire de Sylvain Faure qui, étant absent, va laisser les honneurs de la politique au seul Jean-Philippe, lequel est tout penaud. Jean-Philippe.
Non, je ne suis pas du tout penaud, même si Sylvain nous manque beaucoup. Mais ça sera une chronique peut-être du coup plus sérieuse que d'habitude. Il ne vous a pas échappé que ces temps-ci, on s'interroge beaucoup sur la gouvernance du monde culturel. On se demande même si en France, Camille nous éclaira sur la situation belge, mais on a besoin d'un ministère de la culture. Est-ce que en juin 2012, on aura un ministère de la culture en France? Ce qui sonnerait la victoire 20 ans après du sinistre Marc Fumaroli, qui déjà dans les années 90 disait que l'État n'avait pas à se mêler de culture et militait pour la disparition de la rue de Valois. Alors, les termes du débat sont posés. Certains soutiennent que la rue de Valois n'est plus rien, prise en sandwich, en quelque sorte, entre les grands établissements culturels, à la fois dans le domaine patrimonial et aussi dans le domaine de la production artistique et du spectacle vivant, mais aussi par rapport à l'Élysée. Et très récemment, eh bien, on vient de nommer à la tête de l'établissement du château de Versailles, du parc de Versailles, une ancienne journaliste qui était conseillère du prince. Alors évidemment, l'hôte de l'Élysée n'est pas le régisseur du goût, parce qu'après tout, il ne s'agit que d'un avocat fiancé à Disneyland et marié à une grande voix.
Mais qui a beaucoup aimé la princesse de Clèves.
Mais en revanche, absolument. Mais en revanche, c'est bien le régisseur des nominations dont il s'agit. Et donc aujourd'hui, on a une rue de Valois prise en sandwich. Parce que pour résumer, si les politiques culturelles se font dans les grands établissements, le Louvre, la Bibliothèque nationale de France, l'Opéra de Paris, et si l'Élysée nomme l'ensemble des personnalités qui comptent, à quoi sert le ministère de la Culture? Eh bien, on peut se le demander, si ce n'est à jouer le rôle de sparring partner pour le ministère du Budget dans les exercices de kickboxing de préparation du budget annuel. Ou alors, les gens peuvent manifester dans les jardins du Palais Royal, c'est assez sympathique, en tout cas plus facile que devant l'Élysée. Alors pour les autres, il faudrait rendre au ministère sa gloire d'antan, interdire aux grands établissements culturels de vendre des gadgets, et par exemple interdire à l'opéra de vendre des t-shirts à la gloire de Lawrence Dale, parce qu'on en trouve à la boutique de l'opéra. Et
oui, il faudrait aussi leur
interdire de recourir au mécénat, puisque l'argent c'est sale. Bref, il faudrait revenir au ministère de grand-papa, voire d'arrière-grand-papa. La vérité est sans doute un peu au milieu. Il faut que le ministère de la Culture joue son rôle de pilote, récupère des marges de décision par rapport à l'Élysée et s'affirme sur le champ du numérique. Si on s'intéresse un instant à la gouvernance en matière lyrique, il est bien clair que le ministère de la Culture ne dit pas grand-chose sur la politique d'un établissement comme celle de l'Opéra. Le conseil d'administration administre-t-il même quoi que ce soit? Je pose la question. Le ministère de la Culture suit le budget, suit les règles statutaires lorsqu'il faut modifier le décret, mais savoir si on programme une Salomé ou une Sauberflöte, qu'on déclasse telle production pour permettre à tel autre d'arriver, ça non, quand t'as invité un tel ou un tel, il ne faut pas y songer, et ça pour le coup c'est très bien. Alors pour moderniser tout cela, et puis pour finir sur une note légère qui fera bondir Sylvain dans son bus alors qu'il est en train de podcaster KV Canem, je suggère d'appliquer un petit peu de démocratie participative à l'opéra. on pourrait imaginer une forme de stop ou encore, qui permettrait d'arrêter, y compris pendant le spectacle, les éructations de Marcello Giordani ou les coups de gueule de Franck Ferrari. Stop! En revanche, lorsqu'on aura Olga Peretiatko ou Piotr Bechala, encore, et on pourrait trisser, quadrupler, je ne sais pas comment on quadrisse, Camille. On pourrait répéter comme ça et faire une soirée fort sympathique. On pourrait donc avoir un boîtier avec un bouton vert et un bouton rouge sur les fauteuils de devant.
Quelle délicieuse idée.
Et on pourrait même donc raffiner pour consulter le public sur l'hypothèse d'une reprise de la cabalette. Ou alors au contraire, non merci, dis quoi la pire à 100 reprises, ça ira bien. Plus sérieusement, mais à peine, on pourrait aussi consulter le public sur les programmations. Pourquoi ne pas lancer une espèce de consultation publique pour savoir ce que l'on veut à Paris, et ailleurs d'ailleurs, dans 3 ou 4 saisons, puisqu'il ne s'agit pas de demander Guillaume Tell dans 15 jours, évidemment. Mais on pourrait proposer des options, à l'heure des courriers électroniques et à l'heure où nous sommes tous fichés, même par l'Opéra de Paris, pourquoi ne pas nous demander notre avis sur la programmation des années 2014 et 2015. J'aimerais pouvoir crier « Donnez-nous une Semiramide, donnez-nous les Huguenots dont nous avons parlé, donnez-nous Anna Bolène, donnez-nous du Méhul. Il faut que la démocratie participative entre à l'opéra. » Alors maintenant, il n'y a pas une manière de droite, une manière de gauche de faire de l'opéra. Il n'y en a qu'une, la bonne.
Merci. Ça contrevient, mais est-ce que pour rajouter quelque chose, puisqu'il nous manque une critique de droite, je dirais le ministère ne vaut que ce que vaut le ministre. Si on met une sorte de, entre guillemets, je dis bien, Jack Lang, quoi qu'on pense de lui en général, c'est-à-dire quelqu'un qui a une autorité et peut prendre des décisions incontestables, même si contestables, c'est autre chose. Mais si on met quelqu'un qui de toute façon n'a aucune influence et aucune autorité, évidemment le ministère n'a aucun sens. Et pour ce qui est du stop et encore, j'ajouterais sur la liste et avec une triple signature avec les mains, les pieds et encore le nez, qu'est-ce qu'on ferait avec les mises en scène? Parce que là, le public vote avec la voix parfois. Je viens d'entendre un hurlement parmi les plus extraordinaires que j'ai entendu dans ma vie, après chaque acte, après le Tannhäuser de Bayreuth. Je crois le
zéro
seul que j'ai jamais entendu.
Zéro cœur, opéra.
C'est celui qui a accueilli le roi Roger de Warlikowski et d'autres productions.
Nous avons supprimé les mises en scène lors de notre dernière chronique.
Ah, vous les avez déjà supprimés. C'est très bien.
Voilà.
Si la chose est réglée, ne revenons plus là-dessus.
Vox Populi sur le fond de chronique démagogue de Jean-Philippe Thillet, qui, outre être rédacteur chez forumopéra.com, est aussi le directeur général en charge de l'analyse de la prospective et des études de Terra Nova, le célèbre think tank de gauche. Dernier disque de ce KV Canem, Olga Peretiatko. Alors après Yulia Lechneva et Nino Machaidze, voici Olga Peretiatko, un nom qui ne rendra du fil à retordre aux élocutions hexagonales, mais sous ce patronyme ambitieux...
Il n'y a pas de chointante, râlez pas. Hein,
ouais. Mais sous ce patronyme ambitieux et sous cette plastique à la beauté suspecte, j'ai personnellement découvert une musicienne racée et une styliste de très haut vol, peut-être nos spécialistes me contrediront-ils. Toujours est-il que nous écoutons Non Sida Follia Maggiore et du Turco in Italia, le choix de Jean-Philippe Thielet.
Sempre un fol fior, ma mano, la pe-
Voilà, c'était Nuncida Follia Maggiore et l'air d'entrée de Donna Fiorilla dans Il Turco in Italia. Il y a autre rareté qu'il est bon d'entendre Jean-Philippe et exécuter avec tant de grâce.
Oui, moi j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé la voix, la manière d'interpréter, le programme qui est intéressant. Alors la plastique de la chanteuse, je n'en parlerai pas, mais elle a l'air manifestement très belle. Et d'ailleurs,
elle a chanté Suzanne, je crois, récemment à Paris. Dans la production,
c'est possible.
Avec Minkowski aux Champs-Élysées.
Ah oui, aux Champs-Élysées, oui.
Je crois qu'elle était dans la reprise. Et
je suis allé voir sur son site internet et j'ai tout de suite acheté des places pour son récital du 9 décembre, je crois, à la Cité de la Musique. Et elle reviendra également dans les Capulets en version de concert au Théâtre des Champs-Élysées dans l'automne. Bref, sa carte de visite est déjà bien, bien lourde. Elle avait débuté à Pesaro, elle avait été saluée par les critiques de Forum Opéra, elle a été deuxième prix à Opéra en 2007. Et là, je trouve qu'il y a une espèce, à la différence de ce qu'on a entendu la dernière fois, c'est les premiers disques de Julia Lies-Neva.
Et Nino Marheidze.
Il y a une cohérence. J'avais bien aimé Nino Marheidze aussi. Mais il y a une cohérence, il y a une espèce de pétulance. On écoute ce disque avec beaucoup de plaisir. Ça pétille dans tous les sens. Et on se dit que si sur scène elle a ce tempérament-là, ça doit être quelque chose. Donc, le Turco, enfin, l'air de Fiori, là, est, je trouve, une des meilleures plages du disque. Parce qu'il y a tout, il y a la beauté du timbre, sa fraîcheur, et puis la qualité.
L'inventivité dans les variations aussi, qui fait du bien. Lawrence, un petit mot sur...
Alors, je regrette juste qu'il n'y ait pas de livret numérique chez nos amis de Cobuzz. En tout cas, ce n'était pas possible de le télécharger. Je suis sûr que Lawrence allait le dire, donc...
Honte à eux. Lawrence, un petit mot sur ton ami Olga, que tu as souvent coaché, n'est-ce pas? Tu as d'ailleurs fait sa voix.
Ce qui est drôle, c'est le disque s'appelle La Bellezza del Canto. Ouais. Mais tout est beau.
Dit La Bellezza della Voce.
C'est la voce, non, c'est le canto.
C'est un jeu de mots sur bel canto.
Oui, voilà.
Alors, c'est ingénieux.
Mais c'est
encore un coup des marketeurs.
L'orchestre est beau aussi, il n'y a pas de chœur. Ça, c'était un peu surprenant pendant les cabalettes, une espèce de silence, un grand trou noir. Mais elle a les cheveux magnifiques noirs. Elle est belle comme Anna Netrebko.
Plus fine, hein.
Elle est belle, belle, belle. Ouais, la voix est belle, belle, belle.
Elle fait du 38.
Il y a autre chose à dire.
Oui, mais j'y vais. Excuse-moi. Non,
mais
parce que, après tout cela, franchement, ce qu'on vient d'entendre, je trouve que c'est un des meilleurs morceaux de l'enregistrement. Et normalement, je suis Monsieur Gentil dans cette émission. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, je suis un peu Monsieur Méchant, mais ce n'est pas pour être méchant. Ce que je trouve, c'est une carte de visite. Comme entendu, mais on a déjà entendu Marilyn Hunt dans une carte de visite où on dit « waouh ». Là, je dis « waouh » parce qu'elle peut tout chanter, cette fille. Elle peut tout chanter, même peut-être un peu trop. Parce qu'entre Zulka, qui expose une médium magnifique avec une ligne legato superbe, entre ça et tant d'autres morceaux magnifiques, il y a un Lucia avec où les aigus sont légèrement acides.
Elle a une manière étrange d'émettre ses aigus, justement.
Elle a des sueurs aiguës, mais puisqu'on parle, sont vraiment fabriquées. Hein. Et ça, je suis assez d'accord avec Laurence. Il y a du toutisme. Dans
oui,
ce
oui, oui. Et quelque part, moi, je dis que les cartes de visite qui exposent les faiblesses autant que les grandes qualités. Elle a certainement des grandes qualités. Mais j'étais un peu surpris, même déçu. Par des notes qui étaient absolument pas nécessaires, qu'elle a ajoutées pour montrer qu'elle a un fa du plus.
Et, fa plus plus. C'est pas mal le fa plus plus.
Non, mais je trouve que c'est. Par exemple, elle a une grande personnalité, ça c'est clair, mais si on a besoin dans Hoffman d'entendre des cris de je sais pas quoi, j'étais. Je sais pas. Pourquoi ? Mais j'étais assez allergique à ça.
Te voilà bien.
Je suis d'accord avec vous. C'est marrant parce qu'il y a dans la voix du brillant et même de l'émotion.
Et de l'absolue de la belette.
Qui m'a fait penser par moment à Beverly Sims.
Oui, absolument.
Et pourtant, c'est dans La Rousselka que je l'ai trouvée la plus belle.
Ah oui ?
La plus touchante.
Oui.
La plus vraie. Elle peut chanter et Norina et Lucia et tout ça. Aujourd'hui, il n'y en a pas... 36 au kilo, donc soyons contents qu'il y en a une qui peut chanter ça, mais est-ce qu'elle doit le chanter ? C'est une autre question.
Est-ce que c'est une
Beverly Hills ? Je ne sais pas. Elle pourra, le français, très bien. Je trouve qu'elle fera certainement un jour une très jolie Manon.
Oui, oui.
Mais je ne courrais pas vite pour l'entendre justement dans Lucia.
Mais la somme est très bien à propos de
la somme est,
absolument.
Mais je crois qu'elle, tout simplement, elle est tombée dans le piège, et je lui pardonne ça pour toutes les qualités que j'ai entendues, de la carte de visite. C'est-à-dire, maintenant ou jamais.
Oui,
il faut que dans mon premier disque, je montre tout ce que je sais faire, et c'est à nous de choisir. Si c'est le premier disque où je fais tout ce que je veux, à ce niveau-là, ben, je lui tire mon chapeau et j'attends la suite.
Ce qui est intéressant,
les petits cochons ne la mangent pas.
Ce qui est intéressant, c'est que là, la carte de visite dessine une espèce d'évolution qui se passera ou se passera pas selon pour d'autres programmes, on bascule, on balance tout, alors même qu'il y a des choses dont on sait qu'elles ne marcheront pas. Que la voix n'est pas faite pour ça.
Comme quand Franco Corelli a chanté à Teo Car.
Bah, écoutez, l'analogie, toute proportion gardée, évidemment, serait celle avec Renata Scotto, qui a commencé en Giulietta et Soprano Léger, Coloratura. Ouais,
et a fini en Clitimnestre.
Et qui a, peut-être pas, mais...
C'est
pas resté longtemps. Elle a gardé quand même pas mal.
Elle a fini en Charlotte.
Ah, en Charlotte, oui, heureusement pour moi, je ne l'ai pas entendu. Espérons que la belle Olga suivra le même chemin et surtout qu'elle approfondira la même excellence que madame.
Mais qu'est-ce qu'elle chante aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est son répertoire selon ce récital aujourd'hui ?
C'est la grande question.
Moi, je
l'ai entendu sur scène en Suzanne. C'est tout ce que je peux dire.
Mais moi, autant que quelqu'un passionné des chauves-souris actuellement, j'aimerais quelqu'un qui a chanté Eisenstein. J'aimerais savoir, en jouant Adèle, pendant qu'elle chantait Adèle sur ce disque, est-ce qu'elle a vraiment craché sur Eisenstein ? J'entends, à un moment donné, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait là ? Mais c'était quand même, je ne sais pas
qui... Oui, ça c'est des accidents qui passent bien sur scène, mais qui ne supportent pas l'écoute répétitive.
C'est
comme
mais l'allemand est aussi très bien, on voit bien qu'elle est bien coachée en allemand et en français. Bon. Alors je vous dis, on applaudit
Jean-Philippe,
on attend la suite.
Toi qui, dans le tas, étais le plus enthousiaste, je te laisse le mot de la fin sur Olga pour blanchir son...
Je ne sais pas quel âge elle a, mais elle ne doit pas être très vieille, et donc voilà, je trouve que c'est plein de promesses.
Oui,
tout à fait. Et c'est quand même vraiment agréable d'entendre ça au début de carrière. On la suivra avec beaucoup d'intérêt. Les chanteuses qui sortent leur premier disque, qui donnent envie de les suivre, comme ça a été le cas pour Elina Garancha, après les évolutions sont ce qu'elles sont, on a envie de suivre Olga Peretiatko et je suis très content d'avoir écouté ce disque. Et encore une fois, elle sera à Paris en novembre, ça vaut le coup d'aller l'entendre à deux reprises.
Merci, on termine donc ce qui avait quand même par l'habituel tour de table des objets culturels que nos invités ont aimé et n'ont pas aimé. On va commencer par ce qu'ils n'ont pas aimé. Jean-Philippe Tillet, qu'as-tu détesté ?
J'ai rien détesté ce mois-ci.
C'est embêtant. Ça.
Oui, c'est embêtant.
As-tu détesté l'absence de Sylvain Faure?
Ah non, mais ça, j'ai détesté l'absence de Sylvain Faure. J'ai pas aimé la mort de Salvatore Licitra.
Laurence.
Et voilà.
Laurence.
Ça suffira pour cette fois.
Non, mais voilà, moi aussi, depuis.
Tu es un bon garçon, Laurence.
Oh, mais je suis toujours très bon. Mais non, mais je me suis enfermé à la compagnie en train de travailler mes partitions.
Tu n'as pas détesté ça?
Non, j'ai adoré ça.
Mais c'est pour le tour suivant, alors. Piotr.
Au moins, je reste sur ma détestation de la mise en scène de Tannhäuser de Bayreuth.
Ah, mais j'adorais entendre plus que ça.
Et je dois dire que j'ai vu à la télé aussi depuis le Lohengrin de M. Neuenfels. Alors là, c'est mieux fait, c'est sûr. Mais qu'ils arrêtent de nous les casser. Ce n'est vraiment plus possible. C'est d'une crétinerie telle que ça dépasse toutes les limites.
Voilà, merci, Piotr. Alors. Qu'as-tu aimé, Jean-Philippe ?
Alors, comme j'ai rien détesté, j'ai aimé deux choses. La première, un film de Richard Berry qui s'appelle L'Immortel, avec Jean Reno.
Ah oui.
D'abord parce que c'est tourné à Marseille et que c'est très bien filmé, et aussi parce qu'il y a plein de bandes-son d'opéra. Richard Berry doit aimer l'opéra, et ce truand joué par Jean Reno écoute de l'opéra en permanence. Donc, la plupart du temps, des ténors ou des sopranos, mais c'est vachement bien, et c'est un très bon polar qui est sorti il y a un an, je crois. Et alors, je vous conseille aussi, mais je ne l'ai pas terminé, je vous en parlerai peut-être la prochaine fois, mais un premier roman de Dalibor Friou qui vient de sortir au Seuil, qui s'appelle Brut et qui est une chronique du monde d'après, en quelque sorte, après les crises financières, le choc climatique. On n'a plus de pétrole, on n'a plus de gaz, on n'a plus d'argent, plus d'idées. C'est assez sombre, mais c'est très bien écrit, un premier roman qui a du style, ça donne envie, un peu comme le disque d'Olga Peretiatko. Donc Brut de Dalibor Friou au Seuil.
Laurence.
Ouf, non, il faut... Je sais pas.
Mais quelle vie passionnante tu as.
Non mais je suis vraiment enfermé depuis la dernière fois.
Mais on peut trouver du plaisir dans l'enfermement.
Ah non mais j'ai trouvé. Franchement, mais je ne peux pas parler au micro.
Merci.
Mes plaisirs.
Commentaire édifiant et graveleux.
C'est ton chat qui se plaint.
Ah non mais je sais ce que je vais aimer.
Ah.
Je sais ce que je vais. Je vais en Angleterre demain d'ailleurs. Je repoussais pour être ici aujourd'hui parce que je veux fêter mon anniversaire. Encore un anniversaire. Au théâtre en Angleterre, je vais voir Singing in the Rain et j'adore ces spectacles. C'est Chichester Festival Theatre, apparemment c'est sublime. C'est le type qui a fait le premier signe dans l'acte signe de Matthew Bourne il y a quelques années.
Yeah, ouais.
Adam Cooper, qui est formidable. Alors j'ai hâte d'y être.
Et qui était le Billy Elliot adulte dans le film. Je sais pas si vous
avez... Non, je l'ai pas vu.
Vous n'avez pas vu Billy Elliot?
Pas vu
sur le film, ouais. Billy Elliot, c'est lui qui joue à la fin, dans un petit extrait de l'acte de cygne, qui joue le Billy Elliot adulte. On le voit 30 secondes.
Donc, tes devoirs pour le mois prochain, Lawrence, ce sera de regarder Billy Elliot.
Écoutez, moi, j'aime surtout la tempête de Shakespeare que je suis en train de traduire en ce moment.
En polonais?
En polonais, évidemment. Mais pour redescendre un peu d'un des 600 nouveaux roman qui ça la rentre en France. Ce que j'adore et que je déteste en même temps parce que je n'arrive plus à suivre, c'est l'extraordinaire qualité de nouvelles séries américaines depuis une dizaine d'années.
C'est agaçant.
C'est vraiment, on n'arrive plus à suivre la qualité de ces productions qui dépassent et de très très loin. Parce que je suis allé au cinéma récemment plusieurs fois, j'en suis sorti, j'étais presque gêné d'être dans la salle. Et pourtant, je suis très bon client pour les blockbusters du genre Thor. Lanterne verte et tout ça, je suis vraiment très très bon.
Thor est un film d'auteur.
C'est une horreur.
Thor est le film d'un grand Shakespeare.
Oui, ça m'étonnerait, franchement. Il y a de très bons comédiens qui se prostituent là-dedans.
C'est Kenneth Branagh qui l'a réalisé.
Il y a de très très bons comédiens là-dedans. On a vraiment envie de se taper le cul par terre. Mais les séries, et d'ailleurs, et américaines et anglaises. Il y a des séries anglaises magnifiques. Écoutez, une que je n'ai pas encore vue sur les chaînes françaises, parce qu'on a à peu près 2-3 ans de retard. À peu près 50 ans de retard dans l'écriture et dans la production.
On n'aimait pas plus belle la vie.
c'est une série, une sorte de mélange de western, de polar, qui s'appelle Justified, avec Timothy Olyphant, avec d'excellents comédiens. C'est Elmont Leonard, qui est un écrivain de polar à caractère, qui se passe dans le sud des États-Unis, qui surveille ça, qui supervise, qui écrit. écrit des scénarios avec des comédiens magnifiques. C'est écrit, c'est joué, c'est filmé, c'est dense. C'est, ça n'a rien de la légèreté des séries à la Starsky Hatch autrefois. Et The Wire, qui est sur écoute, on a passé deux premières saisons, les trois dernières jamais diffusées en France. À la Maison Blanche, ça s'appelait deux, trois premières saisons, jamais la suite. Il y a The West Wing, c'est un, c'est un chef-d'œuvre. The Shield, ouais, et même des séries de divertissement qui sont toutes d'une qualité. Bon, elles meurent après un moment d'une mort naturelle. L'année prochaine, on aura la dernière saison de Desperate Housewives. Moi, j'ai déjà un peu décroché. Mais tout ça reste d'un
vous
niveau
traduit en polonais,
remarquable, Desperate. Surtout pour nous.
C'est un coup bas. C'est
du, et c'est The Wire, et qui est une série très sérieuse et qui parle vraiment des choses qui font mal. Et qui,
ça m'a toujours bardé, cette série. C'était
Sur l'écoute.
J'ai essayé 5 fois de.
Ça passe. Il y a eu. J'ai lu une sorte de sondage récemment qui dit que c'est la plus grande série de tous les temps. Et j'en sais rien. Je m'en fous d'ailleurs ce genre de palmarès.
Alf qui a bercé la jeunesse.
Alf, c'est que voilà. Mais en doublage, c'est assez extraordinaire. Et il y a des séries anglaises aussi qui sont d'une excellente qualité.
Yes, Minister.
Mais ça c'est sublime.
Il y a polars,
The Hour, qui est la chose actuelle, qui est un journal télévisé, l'urgence, mais ça fait un buzz incroyable en Angleterre. J'ai vu un petit une petite tranche de ça, mais c'est vrai que une chose que je suis en train de regarder des choses de Buñuel.
oui, on change de registre.
Non, mais pour dire qu'il non, mais c'est pas grave. Mais
Buñuel.
Non, mais c'est simplement parce qu'il y a tant de possibilités aujourd'hui avec le. Moi, je viens d'installer le. Comment tu s'appelles
le câble, TiVo.
Non, comment c'est. Bon, on n'a pas de câble à la campagne.
Parabole.
Parabole.
Capté Al Jazeera.
Non, mais ce qu'on peut voir, c'est. Moi, je trouve ça incroyable. Et d'ailleurs, pardon, mais Mezzo et Brava. Il y a des merveilles de concerts que j'adore.
Voilà, malheureusement, le temps a gagné. C'est la fin de Kamekanem. Moi, je vous conseillerais deux séries. Une série mythique qui s'appelle The Soprano. Et c'est...
Bah voilà, j'ai oublié de
évidemment, ça tombe bien. L'aventure de mafieux, c'est génial. Alors, une série sur le créateur de la série Seinfeld qui s'appelle Larry David. Ça s'appelle Curb Your Enthusiasm.
Curb Your Enthusiasm.
C'est génial.
J'ai pas mentionné des Mad Men.
Ah oui, Mad Men.
Le quatrième saison. Ah oui, ça, c'est extraordinaire.
Et puis la série de l'été, évidemment, qui sont les primaires.
On n'arrive pas à suivre. C'est terrible.
Qui gagnera la saison s'achève dans quelques jours.
Oui, ça, Soprano à côté, c'est des bisounours.
Voilà, tout à fait. Merci beaucoup. Lawrence Dale, Jean-Philippe Thiellet, Piotr Kaminski et les mannes de Sylvain Faure.
À bientôt.
23e numéro de Kamekanem.